Cher Père Abbé, chers frères, chers amis de l'abbaye, laissez-moi vous dire tout d'abord ma joie d'être avec vous pour partager le bonheur de cette solennité de vos premiers abbés cisterciens. Une fête comme ça, c'est toujours une occasion pour reprendre un élan, pour retrouver la fraîcheur des débuts dans notre vie de tous les jours. J'espère que vous n'attendrez pas de moi un discours approfondi sur les saints que nous fêtons aujourd'hui. Ces hommes, grâce à leur réponse à l'appel du Seigneur, ont contribué d'une façon admirable à découvrir, ou mieux à redécouvrir, la beauté et la pureté de la forme de vie évangélique à laquelle vous vous efforcez chaque jour d'être fidèle. C'est de vous qu'on attend les paroles les plus adaptées pour parler de ces saints que nous fêtons. Pour ma part, je me limiterai à souligner quelques éléments des textes bibliques que nous avons écoutés. Il semble en effet tenir compte de notre faiblesse. Et il nous indique les conditions auxquelles nous pouvons regarder d'une façon profitable ou au moins non dommageable à ceux qui nous ont précédés. Vous savez qu'il y a toujours un aspect délicat et même un peu ambigu dans notre confrontation aux grands personnages qui nous ont précédés. Souvenez-vous de la crise où se trouve plongé d'un moment à l'autre le grand prophète Élie devant les menaces de la reine Jézabel. Elle semble, cette crise, causée uniquement par la peur de devoir subir les conséquences de ses actions contre les prophètes de Baal. Mais si nous lisons bien, l'aveu même du grand champion de la foi d'Israël, son désarroi a des racines plus cachées, plus secrètes. Elle plonge dans le regard posé par lui sur la qualité de vie de ses ancêtres. « C'en est assez maintenant, Seigneur. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Vous voyez, on regarde les pères et on se déprime. Il ne suffit donc pas d'exalter les vertus des hommes d'autrefois. Il faut plutôt trouver la bonne manière de nous approcher d'eux. C'est le message, me semble-t-il, que nous pouvons tirer de la lettre aux Hébreux, même s'il aurait fallu les versets qui manquaient. Mais ça va comme de toute façon. Cet auteur a conscience que le souvenir des chefs est indispensable dans la vie des chrétiens. Souvenez-vous de vos chefs, de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Il faut certainement considérer l'issue de leur carrière extraordinaire. Nous pouvons y contempler la fécondité de l'Évangile dans l'histoire de l'humanité. Mais après ça, qu'est-ce qu'il faut imiter de leur vie, leur foi ? Nous ne devons jamais l'oublier. Les chrétiens ne regardent pas aux saints comme à des héros qui ont réussi dans des entreprises exceptionnelles. Leur modèle ne doit pas rester devant nous simplement pour nous rappeler la médiocrité et l'insuffisance de nos réalisations. Isaac de Ninive, grand écrivain, grand spirituel de l'Église syro-orientale, le dit bien à propos de la vie de l'homme de Dieu. Elle doit être toujours une vision qui encourage. Une vision qui ne fait pas écran par rapport à l'essentiel. Une vision capable de faire transparaître l'initiative d'un autre qui doit rester prioritaire. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit. C'est le Seigneur qui, par sa voix, nous libère de notre mentalité servile et nous fait entrer dans son amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Voilà tout le secret de la sainteté chrétienne, tout le secret de la sainteté de Robert, d'Albéric et d'Étienne. Une vie humaine qui renvoie entièrement, avec sûreté et clarté, à la voix de l'époux. C'est le grand témoignage de ces premiers abbés de Cîteaux. Ils ont été certainement des hommes courageux et généreux. Les débuts de leur expérience monastique ont été d'une dureté impressionnante. Et pourtant, ils ne nous écrasent pas sous le poids de leurs exploits. Par leur vie, ils nous parlent aujourd'hui encore des plus belles promesses de Jésus à ceux qui simplement et radicalement demeurent en son amour. La joie en nous, une plénitude de joie. Et c'est tout ce qu'il faut faire mûrir en nous pour que notre vie donne son fruit selon la volonté de Dieu. Il faut que nous arrivions à susciter en ceux qui entrent en contact avec nous la possibilité pour eux d'une vie pleine et heureuse. Évidemment, c'est bien si notre vie devient un rappel de l'exigence évangélique plus haute et radicale. Pourvu que ceci corresponde en même temps à un mouvement conduisant réellement, concrètement, la personne à la conversion. À ce propos, je pense que vous me pardonnerez une application plus directe à la situation que vous vivez, mes chers frères. C'est en effet assez facile pour une communauté monastique de faire naître, même dans les hommes et les femmes de notre temps, une tension vers un niveau supérieur de l'existence humaine. La beauté de la liturgie, l'esthétique d'un lieu, le chant, le silence, la vie commune, un style de vie fascinant, le travail, la prière, la recherche de l'absolu. Cependant, la vraie question est une autre. Est-ce que les gens qui ont cette réaction devant notre témoignage, qui voient cette vie monastique et s'élancent vers l'idéal, découvrent personnellement une force, une espérance nouvelle pour s'engager personnellement dans le travail, toujours difficile et exigeant, qui demande à chacun de devenir toujours plus humain et fraternel là où il se trouve à conduire son existence. Les communautés chrétiennes et plus encore les communautés monastiques n'existent pas pour représenter des réalisations idéales et définitives d'un rêve. Leur but est toujours parabolique. Il s'agit de faire signe à celui qui, à chaque instant, les rend possibles, ici et maintenant, grâce à la seule puissance de la parole dont elles essayent d'être l'humble et fidèle écho. Laissons ainsi le dernier mot au maître de sagesse que nous avons écouté dans la première lecture. Il ne fait que nous confirmer dans cette perspective. L'objectif de toute mémoire des pères, y compris de celle que nous faisons aujourd'hui, est le renouvellement d'une confiance qui est la réalisation pratique de la crainte authentique du Seigneur. Considérez les générations passées et voyez qui donc, confiant dans le Seigneur, a été confondu, a été abandonné, l'a imploré sans avoir été écouté. Voyez, les œuvres prodigieuses de nos pères, nous devons évidemment les admirer et rendre grâce au Seigneur pour elles. N'oublions pas, cependant, de nous tourner à chaque moment vers la source intarissable à laquelle ils n'ont jamais cessé de boire. Nous pourrons devenir, à notre tour, pour nos frères et sœurs, une raison vivante et efficace de croire vraiment au bonheur divin auquel chacun est appelé.